Bonjour Annette. Eh bien, mes filles m'ont dit que je racontais des choses pas tristes ou nettes souvent. Sans doute que je vieillis, sans doute que je porte la fatigue. Mon cardiologue l'avait dit, faites attention, vous êtes fatigué, vous ne reposez pas assez, vous serez acariâtre. Et donc, j'ai tenu compte des réflexions de nos trois filles et de ma femme, et j'ai décidé de parler de la joie aujourd'hui. Voilà. La joie, très profonde, inaltérable. Alors, nous allons commencer tout de suite dans Job, chers amis. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Gloire à ta parole, à tout ce qu'elle révèle, à cette nourriture pour nos âmes et pour nos cœurs, pour notre esprit. Gloire à toi. Au nom de Jésus, amen. Job, chapitre 19. 21 siècles avant Jésus, 42 siècles avant nous. Job, chapitre 19, verset 25. Je vais commencer au verset 23. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. » Bonjour Emmanuel. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. » C'est Job, chapitre 19, verset 23 à 29. Emmanuel. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable, mes yeux le verront et non celui d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous voyez donc que Job a la conviction qu'une joie éternelle et une vie en Dieu l'attend. C'est magnifique. C'est 42 siècles avant nous. C'est le cœur de la révélation. 33, verset 26. Job 33, verset 26. Vous savez qu'au verset 14, Dieu dit que, par la plume et la bouche de Job, qu'il parle tantôt d'une manière, par les songes, par la douleur. Bon, maintenant, un peu plus loin, si vous voulez, c'est intéressant que vous lisiez du verset 14 jusqu'à la fin, et moi je vais être un peu plus court. Je prends le verset 22. L'âme de l'homme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à cet ange, c'est le Christ en fait, hein, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, c'est le Christ lui-même. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, c'est-à-dire sans colère, favorable. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Lisez tout cette fin du chapitre 33, du verset 14 à la fin, vous verrez, c'est épatant. Cette force, cette joie spirituelle de Job. C'est un don de Dieu, évidemment. Il n'a pas été trouvé dans un magasin, ou sur le dos de son âne, ou de son chameau. Nous allons lire d'autres passages dans l'Ancien Testament, le psaume 71, 71 pour les Belges, 71. Verset 20. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. La joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Psaume 71, 71, verset 23. Formidable! Méditez ce verset, copiez-le à la main quelquefois pour le retenir par cœur. C'est comme ça que la Bible après nous aide, même quand on conduit la voiture, on travaille, et quand on a des épreuves, et même si on a des joies, Dieu rajoute à la joie. Elle fait déborder la coupe de la joie. Une joie spirituelle, pas la joie qui vient de cinq verres de vin, n'est-ce pas? Alors, nous allons un peu plus loin, si vous voulez bien, dans Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 12. Bonjour Marie-Josée. Ésaïe chapitre 12. Donc le sujet aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'arriver, ils pourront écouter, ça restera enregistré, c'est la joie. Oui, je ne veux pas un message tristouné aujourd'hui, sur les temps difficiles, etc. Mes filles m'ont fait des remarques et j'en tiens compte. 12 verset 1. Ésaïe, 12 verset 1. Tu diras ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée, tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alors, suivant. Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Pensez à Jésus près du puits de Sichar avec la Samaritaine. Quand il lui a dit, tu n'aurais plus jamais soif si tu prenais de mon eau. Il vous dira en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. C'est un chapitre très court. Ésaïe chapitre 12, versets 12, 1 à 6. C'est étonnant. Demandez pourquoi à Lefèvre d'Estampes, qui a un Français tout près de Paris, c'est lui qui a numéroté toute la Bible en chapitres et en versets. Demandez-lui pourquoi il a mis. Mais c'est magnifique. C'est un thème bien clair, bien fort, fort. Le Seigneur est au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Je suis au milieu de vous, jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. La thématique est éternelle. La miséricorde de Dieu est éternelle et la joie qu'il veut nous procurer, c'est son intention. Il est venu pour notre joie. Alors, Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 3. On va commencer au verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Est-ce que c'est magnifique? On est entouré d'aveugles et de sourds, et bien pourtant, il y a un miracle. On peut se réjouir déjà d'avance. Chers amis, réjouissez-vous d'avance. Ceux qui vous entourent vont avoir des nouveaux yeux et des nouvelles oreilles. Des nouveaux yeux. Alors, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, des ruisseaux dans la solitude. Le boiteux, ben je fais partie des boiteux, mon genou droit me joue des sales tours. Enfin, j'ai compris une chose, chers amis, c'est qu'on souffre beaucoup moins dans les pieds et les genoux si on maigrit. Et surtout, je pense que le jeûne permet au corps de se reconstituer, de se battre. Quand on mange trop souvent, le corps se fatigue à manger et ne sait plus se battre contre la maladie. Et même le terrain devient plus favorable. Je vous le dis, c'est une décision que j'ai prise parce que je vois trop de souffrance sur la terre, mais aussi j'avais trop de souffrance dans mes genoux, surtout le genou droit. J'étais appesanti lors de mon voyage en France et une saine décision, c'est de un repas par jour au lieu de trois. Eh bien, je vais vous dire, c'est 100 fois mieux pour mes genoux et pour mon moral. Je serai plus joyeux et plus en forme. Ce n'est pas un jeûne tristouné. Je ne peux plus le faire jeûne 5, 6 jours, 10 jours d'affilée sans rien. Sinon, je vous le dis, d'abord, le gros inconvénient, c'est qu'on a une haleine fétide et que tout l'entourage se sauve. C'est pour ça que Jésus a dit « Parfumez-vous et surtout ne soyez pas tristes. » Mais ce qu'il y a, quand on prend un certain âge, il y a des médicaments à prendre, il faut que l'estomac ne soit pas vide des fois. D'autre part, avec la chaleur, sans nourriture, je n'oserais plus conduire. J'aurais la tête qui tourne et j'aurais des accidents. Je ferais des bêtises. Et même pour marcher, descendre et monter des escaliers. Donc, la bonne quantité de kérosène, pour le moment, c'est un repas par jour. À mon avis, en hiver, quand il fait très froid et que le corps est fort sollicité, ce sera deux. Mais mettez-vous en garde contre cette habitude de trop manger. Quand je vois ces braves chrétiens au Pakistan que nous aidons grâce à vos aides, hein, ils mangent un repas par jour. Nous avons logé ici un Bulgare, un Milko, il était maçon, il aimait travailler, il était toujours actif, il mangeait une fois par jour. J'ai vu des Africains ici, ils mangeaient une fois par jour. Et ces Africains avaient été tabassés, violés, ils avaient des maladies vénériennes, des maladies rénales. Ils jeûnaient, ils mangeaient peu, et au bout de 6 mois, avec la prière évidemment, la parole de Dieu, ils étaient guéris. Sans médecin. Si, le médecin divin. Je vous conseille de faire très attention à cette force de la foi, cette force du jeûne, non pas pour se faire le malin, c'est pas si marrant que ça d'ailleurs, mais faire le malin, c'est pas une source de gloire, le jeûne. Mais c'est une source de dépouillement propice à la santé, propice à la forme morale et spirituelle. Il faut le pratiquer selon ses moyens. Mais je pense que 3-4 repas par jour, c'est exagéré. Un repas ou deux, et il faudrait se limiter encore dans le repas, en disant je vais me rattraper parce que je me suis privé de 2 repas. Se limiter, c'est salutaire. N'oubliez pas, la joie vient d'une forme de combat quand même pour vaincre nos convoitises, nos problèmes physiques. C'est pas notre corps qui doit commander notre esprit et nos pensées et nos mouvements. C'est notre esprit qui doit commander. Et l'esprit peut être aidé par l'Esprit Saint, par la parole de Dieu et la prière. Proverbe 10, 28. Proverbe 10, 28. Voilà. Celui qui se confie dans sa richesse tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent. L'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur, mais c'est une autre rétribution. Regardez bien un peu avant, Proverbe 11, 24, tel qui donne libéralement, avec libéralité, devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Verset 25, l'âme bienfaisante, donc la personne qui fait du bien, sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend ou le donne. Dieu soit loué. Au verset 12, verset 2, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Chers amis, la joie est évidemment le résultat d'un engagement en même temps que d'un don spirituel venu de Dieu. Alors, allons un peu plus loin. Regardons, chers amis, dans Luc, chapitre 1, verset 44. Luc, l'évangile commence par la joie, vous savez. C'est ça qui est formidable. Luc 1, 44. Oh, je vais vous dire, j'étais pas prêt. À 5h15, 5h20, j'étais pas prêt. Mais j'avais passé du temps à méditer, à prier, et donc je savais plus ou moins où j'allais aller dans la Bible, et puis j'ai mis tout ça, j'ai accouché tout ça sur papier. C'est une joie. Quand on lit la parole de Dieu, pour finir, ça remplit le cœur et ça déborde de la coupe. Et on trouve tout de suite l'abondance. Luc 1, 44. C'est Élisabeth et Marie qui se rencontrent. Donc Marie, au verset 40, entre dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Verset 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Donc Jean-Baptiste est dans la joie. Pourquoi donc? Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est non seulement la grossesse, l'enfantement et l'éducation de Jésus, mais c'est aussi, je vais vous dire, l'accomplissement des prophéties et le royaume de Dieu. Nous verrons Marie, nous verrons tous les saints, nous verrons Zacharie, nous verrons les anges, nous verrons Dieu. Alors, dans ce chapitre 1, je vous dis que l'évangile commence par la joie. C'est formidable, ne l'oublions jamais. Verset 46, Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Une servante bienheureuse. Enfin, une vierge sur le trône avec une couronne, le tympan de l'église de Reims, Marie est l'équivalent de Jésus sur un trône. C'est pas ça que Marie vient de dire, hein. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Voilà. Et c'est toute la suite de la prière de Marie qui ressemble à la prière d'Anne dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2. Et qui croit dans l'œuvre de la restauration par Dieu de toute la création et de toute l'humanité et de la sainte justice de Dieu qui sera établie sur terre et dans les cieux. Marie est joyeuse. Élisabeth est joyeuse, Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth est joyeux. Vous voyez que l'évangile commence par la joie. Est-ce que, pensez-vous, que la croix et la mort de Jésus vont être source de tristesse? Non, pensez aux disciples d'Emmaüs au chapitre 24, on y viendra. Alors, au chapitre 2 de Luc, au chapitre 2 de Luc, au verset 10, commençons au verset 8, Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Il y a de quoi, la gloire du Seigneur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Pour tout le peuple, un sujet de grande joie. Mais le peuple d'Israël, oui. Oui, les amis, pour tout le peuple d'Israël. Et ce peuple attend la grande joie. Même si les moyens d'information que nous avons sont tellement déformés, filtrés malhonnêtement, qu'on ne voit pas que le peuple d'Israël attend Christ. Moi, j'ai vu en 2008, lorsqu'ils allaient tous, 110 000 par an depuis 2003, chercher une Bible avec le Nouveau Testament, ou plusieurs Bibles. Je pense que tout Israël, chez les Juifs laïcs, tout Israël ont une Bible avec le Nouveau Testament maintenant. Donc une Bible chrétienne, éditée par des Juifs messianiques, eux-mêmes convertis à Jésus le Messie. Il y a donc, quelque part, un peuple qui se prépare à la venue avec joie de son Messie. Sommes-nous aussi de ce peuple? Et sommes-nous dans la joie de la venue de notre Maître? Sommes-nous dans la joie de la venue de notre Maître? Je pense que c'est ça qui doit nous motiver pour être dans la joie. C'est pas une petite lumerotte, une petite espérance faiblarde qui ne nous procure aucune confiance en Dieu ni en nous et qui n'assure aucune assurance, aucune joie. Dieu veut une forte joie en nous, une grande joie, sous la puissance du Saint-Esprit. Romains 14, 17, le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais paix, justice, amour et joie selon le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Donc, il est clair que ce qui correspond dans Romains 14, 17 et dans Luc, au chapitre 2, verset 10, c'est le même message de Dieu. Pour nous et pour les Juifs. Alors, allons un peu plus loin. Dans le chapitre 2, au verset 13. Soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Donc, la multitude de l'armée céleste, ce sont les anges, ils sont dans la joie, la venue de Jésus sur terre, pour la rédemption du monde. Comprenez pourquoi Pierre, dans son épître, dit que les anges désirent plonger leur regard dans l'Église, dans nous, chrétiens, où l'œuvre de l'Esprit agit. Ils veulent contempler l'œuvre de Dieu en nous. Pourquoi? Parce qu'ils attendent notre plein accomplissement en Jésus-Christ, dans le royaume sur terre de Christ. Et cette joie est bonne, cette joie est sainte. Les anges sont près de Dieu déjà dans la joie pour ce qui est assuré pour nous par le sang de Jésus-Christ à la croix. Quelle joie, chers amis! Quelle joie! La joie est totale dans la foi. Ah oui, on a des épreuves, etc. Mais lisez les premières épîtres de Pierre, vous allez voir que les épreuves ne sont que pour un temps. La fournaise n'est que pour un temps, dont le résultat sera la gloire, l'honneur et la louange. En face de Dieu, évidemment. Dans une pleine communion avec lui. Nous ne sommes pas dans un message tristouné et morbide dans l'Évangile. Alors, continuons dans ce chapitre 2 de Luc, chapitre 2, et allons plus loin, au verset 52. Je vous en prie, prenez votre Bible et prenez un cahier, notez. C'est très important pour mémoriser. Si on note, on retient au moins 85%. Si on note jamais rien, on retiendra 15%. Il y a eu des études psychopédagogiques sur tout ça. Alors, à moins que c'est exceptionnel d'avoir une mémoire, vous savez, ça arrive, il y a des gens qui sont très doués, j'entends une fois, ils retiennent tout. Mais bon, nous ne faisons pas partie, en général, de cette catégorie super douée. Et encore, c'est peut-être pas un avantage, tout compte fait. On se confie trop dans ses moyens personnels et pas assez dans l'effort et le travail personnel et dans l'humilité personnelle. Luc, chapitre 2, verset 52. Vous savez, il s'agit, à partir du verset 41, du récit où Jésus est resté au temple et il écoute, il discute, il enseigne les prêtres. Pendant ce temps-là, les parents ont cru qu'il était dans la caravane où il y avait des milliers de personnes et ils retournaient tranquillement. Puis tout d'un coup, ils se rendent compte que leur petit garçon n'est pas là. Ils retournent au temple, ils le trouvent en train de s'occuper des affaires de son père. C'est comme ça que Jésus leur a répondu. Au verset 49, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il a une pleine conscience de sa venue sur Dieu, sur terre, de son ministère. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'est comme ça, c'est des parents comme nous. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien, je vais vous dire que dans la sagesse et la stature, il y a la joie de faire confiance à son Père. Et il y a la joie d'être dans la mission que Dieu lui a confiée. Et dans la joie de rencontrer les hommes comme ils sont, même s'ils sont pécheurs, il les aime. C'est un péché qu'il n'aime pas. Il est dans la joie de la victoire de la croix déjà. Il est dans la joie du royaume qui sera établi sur terre. Il est dans la joie du plein accomplissement, du salut et de sa seigneurie déjà. Donc, quand il grandit en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, il est clair que dans son cœur, il se passe des choses formidables qui dépassent le cœur humain d'un enfant classique. C'est un enfant avec une tête et des pieds, un cœur, des organes, etc., des reins et tout. Il mange, etc. Mais ce qu'il y a, il y a une action unique. Il est sans péché et il est rempli du Messie, de Christ. Jésus Nazareth est rempli de Christ. C'est la deuxième personne de la Trinité, Christ, qui s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent, l'ange de Dieu. N'est-ce pas? Melchisédek, qui s'est manifesté à Abraham. Lisez Hébreux chapitre 7, vous verrez que c'était Christ. Christ s'est manifesté dans l'Ancien Testament, combien de fois? Christ est éternel. Christ est la deuxième personne de la Trinité, il est dans cet enfant. Et il attend l'autorisation de son Père de commencer un ministère public pour la parole. En attendant, il a un ministère caché, un ministère humble de compagnie, d'accompagnement des hommes, de témoignage dans l'humilité et la modestie. Comme un homme, lisez Philippiens chapitre 2, il a pris la condition d'un serviteur, d'un homme. Il a laissé sa gloire dans le ciel. Il la retrouve après, évidemment. Donc, cet enfant Jésus est dans la grâce, donc il est dans la joie de son ministère. Je pense que celui qui a le plus de joie, c'est Jésus. Croyez en lui, et vous recevrez cette joie. Croyez en moi. Je vous donne ma paix, recevez-la. Je ne vous la donne pas comme le monde veut la donner. Courage, j'ai vaincu le monde, j'aurai des tribulations. Mais courage dans la joie. Pensez à Pierre qui est en prison, n'est-ce pas? Emprisonné. Puis tout d'un coup, il y a un ange, les portes sont bousculées, etc. Il ressort. Ils sortent tout joyeux. Et ils vont parler aux autres disciples, aux autres apôtres qui sont dans le Cénacle, qui étaient en train de prier et louer Dieu pour que Dieu libère Pierre et Jean. Et j'étais dans la joie. Et dans la prison, en attendant que l'ange ouvre la porte, il dormait, il ronflait. Je me rappellerai toujours d'un autre fils Benoît qui m'avait demandé un dessin avec des quadrillés et qui s'était amusé après une école de dimanche à la maison tout seul a dessiné le mur de la prison avec une petite fenêtre et des barreaux. Et c'était bien fait, hein, avec toutes des pierres, etc. D'ailleurs, il sait bien maçonner la pierre. C'est un as. Et puis, au barreau, il y avait des zut, 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 pour dire il y a quelqu'un qui rompe derrière, et c'était Pierre. Et Benoît avait compris la joie et la paix de Pierre et de Jean dans la prison. J'ai connu des chrétiens protestants qui ont été en prison dans le régime communiste en Allemagne de l'Est et qui m'ont dit, les moments où nous avons la plus grande paix, la plus grande joie, c'est l'époque où nous avons été destitués de notre boulot, ils étaient ingénieurs tous les deux, de tout, on a tout perdu, on était en prison. Le croyez-vous? Combien de fois je vois dans des réunions, quand je vais à droite et gauche, on a peur d'aller en prison, on a peur de se faire arrêter comme chrétien. On a peur de désobéir, on devient des petits toutous. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut être joyeux. Et il faut servir Christ. Il ne faut pas les provoquer les autorités. Pour le plaisir, par effronterie, par arrogance. Mais s'il y a un jour une arrestation, soyez dans la joie, les amis. C'est que vous êtes dignes du Seigneur. J'ai toujours dit à ma femme et aux enfants, si un jour j'y suis, ils me mettront dehors parce que j'avais annoncé le salut et l'évangile à tous les prisonniers. Ils me mettront dehors parce qu'ils vont être dégoûtés. Écoutez, l'homme a besoin du salut. L'homme a besoin de l'œuvre de Christ. Marie avait la joie, Joseph, les anges avaient la joie. Eh bien, ayons la joie, la vraie joie de l'évangile. Alors, nous sommes dans Luc, je vais télescoper tous les chapitres, parce qu'il y a beaucoup de passages dans Luc où il y a des sources de joie dans le Saint-Esprit. Allons au chapitre 24, verset 13. Luc 24, verset 13. Donc, il y a eu l'assassinat de Jésus de Nazareth, au Golgotha, un lieu infâme, au lieu du crâne, le pire des endroits de la région, où on a déjà massacré des milliers de gens, mais vraiment infâme, sinistre, ça ressemble à un rocher. Le rocher ressemble à un crâne, je l'ai vu, c'est peu dire. Alors, et ça n'a pas été fait par l'homme, c'est naturel. Alors, ce qui se passe, il y a deux hommes qui partent, chapitre 24, verset 13, deux disciples, c'est pas deux apôtres, deux disciples, parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'entour des apôtres et de Jésus, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Donc à peu près, si vous voulez, 9 à 10 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc quelqu'un va arriver tout près d'eux, va parler avec eux, etc. Et ils vont manger ensemble, etc. Jésus va leur expliquer que ce Messie qui était mort sur la croix devait être crucifié et ressuscité. Bon, ils savent pas que c'est lui. Juste au moment où il va faire la fraction du pain, ils vont le reconnaître. Mais, attention. Verset 29. Ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. La joie est immense. La joie est immense dans tout ce petit troupeau. C'est pour ça que dans Luc 12, 32, il y a un verset magnifique. Magnifique. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Pas de crainte, chers amis. La joie d'être bien conduit jusqu'au bon port, et d'avoir la victoire, la vraie victoire, la vie éternelle. Mais pas d'orgueil, il n'y a rien qui vient de nous, là-dedans. Prenons la première épître de Jean, chapitre 1, verset 4. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 4. Je pourrais lire tous les trois premiers versets, c'est magnifique, mais bon. Et nous, écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, il a rencontré Jésus, il en a fait l'expérience, et il dit pas je, nous, nous avons vu, nous avons contemplé, nous avons touché. Lisez ces versets-là, 1er épître de Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Mais nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre joie, c'est toute l'Église de Christ. C'est un partage à joie. C'est une communion autour du ressuscité. C'est une communion autour d'une bonne nouvelle. La vie a la victoire sur la mort. Le péché ne triomphera pas. Il sera banni de la création. Satan sera jeté. Proclamons tous les jours, dans nos chants, dans notre louange, dans notre prière personnelle, en bossant n'importe où, la victoire de Christ. Que ça lui fait plaisir. Il voit que nous croyons en lui. Faisons plaisir à Dieu. Disons-lui que nous croyons vraiment dans sa victoire. Alors, nous allons continuer, bien sûr, nous allons aller autre part. Nous allons aller dans Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Verset 10. Nous prenons au départ de l'évangile, ce qui correspond à Luc, à Marc, à Jean aussi, hein. Mais enfin, chapitre de Matthieu, chapitre 2, verset 10. Il s'agit des trois astrologues venus probablement d'Afghanistan, d'Arabie aussi, qui ont une grande sagesse, une grande connaissance. Au verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Donc, ils ont retrouvé l'étoile. Tout d'un coup, ils arrivent à Jérusalem, il n'y a plus rien, ils ne voient plus rien. Et puis, ils rencontrent Hérode, ils rencontrent toute la cour d'Hérode, qui est pernicieuse, vindicative, dangereuse. Puis, tout d'un coup, ils ressortent. Et verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, aller devant eux jusqu'au moment où arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. C'est une grande joie, pourquoi? Pour rencontrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il lui apporte l'or, l'adoration. L'or représente l'adoration. Il lui apporte l'encens. C'est le grand prêtre des cieux. C'est celui qui fait le sacrifice. C'est l'intercesseur. C'est l'adorateur, le seul que nous avons, le seul médiateur, la myrrhe. La victime sainte est déjà dans leur esprit, le roi est déjà là dans leur esprit, la grande parole de Dieu est reconnue par eux dans leur esprit. Tout est reconnu dans l'âme par ces trois hommes. Ils voient, ils connaissent le Fils de Dieu, ils ont eu des révélations. L'étoile leur renseigne, mais c'est surtout le Saint-Esprit qui leur renseigne et qui leur donne la joie. L'étoile était un moyen pour les guider. Matthieu 6, verset 16. J'aborderai le sujet de Matthieu 5 après, en allant dans Jacques, les béatitudes. Matthieu 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage et sois joyeux, afin que tu ne montres pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La joie d'une communication, d'un dépouillement, d'un désintérêt pour les passions, pour les convoitises de la bouche et du ventre. La joie d'être à son Dieu, plus que d'être à son corps et à ses passions. La joie d'être, de se rapprocher de Dieu, de se dépouiller de choses qui sont assujettissantes. Pensez bien que dans Luc 21, il est dit qu'au retour de Jésus, faites attention aux excès de table, afin que votre âme ne s'appesantisse pas. Eh oui, c'est un piège, l'appesantissement. Alors, Dieu nous connaît bien, et c'est pour ça qu'il parle ainsi. Soyons dans la joie pour nous approcher de Dieu et pour perdre un petit peu de nos caprices culinaires. Au verset 34, Matthieu 6, 34, vous avez remarqué, chers amis, que de plus en plus, depuis quelques années, la crise aidant, qu'il y a beaucoup, vers la fin de la journée, il y a beaucoup de jeux d'argent pour attirer tout le monde, parce que tout le monde a besoin d'avoir un peu plus de sous, etc., mais se fait prendre au piège. Beaucoup y perdent beaucoup d'argent. Et puis, il y a aussi tous ces chefs cuistots, ces maîtres des saveurs, et il y a des émissions complètes sur la Boostify, sophistiquées, intelligentes. Une mise en valeur du tube digestif et de ses plaisirs. Pourtant Jésus, oui d'accord, Jésus sera là un jour au mont Sion et dressera la table, il nous servira, il y aura un grand banquet avec des festins, des mets succulents. Ésaïe 25, versets 6 à 9. Mais en attendant, si Jésus, un Cana, a abondé en joie et a multiplié l'eau, changé l'eau en vin, ce n'est pas pour que tous les jours on tombe là-dedans. Recevons de Dieu la joie, recevons de Dieu la nourriture, mais n'en faisons pas plus qu'il ne faut. Le repas royal nous sera donné un jour par Dieu. Et si nous voulons l'avoir tous les jours sur table, je ne sais pas si Dieu nous le donnera. Parce qu'il vaudrait mieux beaucoup partager. Il y en a qui n'ont rien. Alors, au verset 34, Matthieu 6, 34, beaucoup de personnes ont de l'inquiétude, au verset 25, pour la nourriture, pour le vêtement, oui, beaucoup, pour les semailles, pour le résultat des récoltes, etc. Hein. Et au verset 34, voilà ce que Dieu dit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vous donne un exemple, chers amis. Nous avons perdu le champ dans lequel nous faisions la nourriture, nous faisions les légumes pour les réfugiés, pour les visiteurs, pour nous-mêmes, pour des gens démunis, surtout en zone française, ici à côté. Et nous ne l'avons plus. Quelle est la solution? Se tracasser. Oui, j'ai vu une réaction alentour de moi. C'est fini. Dieu a comblé les cœurs. Eh bien, actuellement, dans quelques jours, nous allons chercher 3 tonnes de blé en Champagne. Et sur les 3, nous n'en payerons qu'une. Et le transport est fait par un ami, gratuitement. Nous pourrons faire du pain et de la farine, pour ceux qui passent. Et oui, le Seigneur a béni. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est très important de remettre tout au Seigneur. Ses comptes, il faut faire ses comptes, oui, mais quand on fait les comptes du ménage, de la maison ou de l'église, en dessous, il faut dire merci Seigneur. Ou, si on est trop court, au secours Seigneur. Et le présenter dans la prière avec joie et en paix. Et vous verrez que ça marche beaucoup mieux que d'écouter ces angoisses, ces maux d'estomac, ces crampes ou ces lumbagos. Alors, chapitre 9, verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, il est chez M. Lévi, un percepteur d'impôts. À Capernaum, on passe de nombreuses caravanes qui viennent d'Europe, d'Asie, vers l'Afrique, vers l'Arabie. C'est une grosse barrière de péage sur l'autoroute du monde. C'est un nœud vital en Orient, cet endroit. Eh bien, M. Lévi perçoit beaucoup d'argent pour l'Empire romain, pour Hérode, peut-être pour lui aussi, je pense, comme Zachée. Alors, M. Lévi reçoit la visite de Jésus dans sa maison. Matthieu 9, 10, Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, donc de ces commerçants, ces percepteurs d'impôts, et de gens de mauvaise vie, se tinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Bien sûr, il y en a qui sont hostiles. Qu'est-ce que dit Jésus? Verset 12, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc Jésus se considère comme un médecin qui aime les malades, qui aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché, c'est différent. Ni la maladie. Nous l'avons vu avec Lazare, devant le tombeau de Lazare, il frémissait, il était indigné. Mais il aimait Lazare, il n'aime pas la mort. La mort est son ennemi. Et il l'a vaincu à la croix. Ô mort, où est ta victoire? A dit Osée, chapitre 13. Alors, allez, apprenez ce que signifie je prends plaisir à miséricorde et non sacrifice. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus prend plaisir à être en compagnie de ces personnes. Il prend plaisir à les aimer. Il prend plaisir à s'approcher d'eux pour qu'eux s'approchent de lui, pour qu'ils le connaissent et qu'ils découvrent la venue du Sauveur. La joie de Jésus est immense dans son cœur. Dans son ministère, il est joyeux. Il aime les hommes. Et les hommes s'approchent de lui parce qu'ils voient sa joie et son amour, sa compassion, sa miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde sans joie. Il n'y a pas d'amour sans joie. C'est à ce moment-là que les personnes voient que la joie brille dans les yeux, dans le cœur, et que c'est un amour sincère, authentique. Dans la rue, dans les magasins, dans le train, ayez ce regard d'amour et cette attitude miséricordieuse, favorable aux autres. Regardez combien de cœurs, de regards sont éteints. Eh bien, nous chrétiens, il faut avoir la lumière. Il faut être dans la lumière. Il faut être des enfants de lumière. Romains 6, marchez comme des enfants de lumière. Alors, continuons. Au chapitre 11, versets 26 et 27 de Matthieu. Chapitre 11, versets 26 et 27. Commençons au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu as révélé aux enfants. » Donc, Jésus est heureux de voir que ceux qui ont un cœur modeste, un cœur, même s'ils sont très de grands pécheurs, un cœur modeste, qui sont sensibles à sa présence, sensibles à sa venue, l'écoutent et vont à la cueillette. Ils boivent ses paroles, comme la Samaritaine d'ailleurs. C'est ça, les enfants, de ce que tu les as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus le dit dans la joie. C'est le vrai berger. Il est dans la joie. Il conduit, psaume 23 et psaume 1, il nous conduit vers les eaux paisibles, les eaux de la joie, comme nous l'avons lu dans Ésaïe au chapitre 35. versets 3 à 10, chapitre 12, 1 à 6. Les eaux de la joie, les eaux de la relation éternelle et vitale avec Dieu. Prenez mon joug, ma parole, sur vous, recevez mes instructions, ma parole, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mon joug, ma parole, mon enseignement, ma personne, mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce n'est pas des réglementations légalistes pour mettre la terreur dans les âmes, le doute, l'angoisse et ne pas connaître Dieu. Jésus vient nous apporter la connaissance de Dieu. Et c'est une connaissance joyeuse. L'évangile, c'est la traduction du mot grec « bonne nouvelle ». C'est un message joyeux. Alors, allons un peu plus loin. Dans Matthieu, au verset 13, verset 16. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Ils voient quoi? Jésus. Ils entendent qui? Jésus. Heureux. Oui, chers amis, soyez heureux avec Jésus. Aimez Jésus. Regardez Apocalypse, la belle église d'Éphèse. Elle n'aime plus Jésus. Ça sert à quoi? C'est déjà fichu. À part peut-être deux, trois personnes. Ne confondons pas les objectifs. Nous n'avons pas foi dans l'Église, nous n'avons pas foi dans notre foi, nous avons foi dans les institutions, nous avons foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui nous aime. Nous allons au-delà des systèmes, au-delà des instincts humains, au-delà des langages, des institutions, et même parfois nos églises sont devenues des institutions où on ne voit plus trop où est Jésus. Il faut que Jésus revienne dans l'église. Laodicée, Jésus est derrière la porte, il frappe. Si vous entendez ma voix, que vous m'ouvrez la porte, je rentrerai chez vous, je mangerai avec vous, et vous mangerez avec moi. Rendez-vous compte que l'église de Laodicée avait mis Jésus à la porte. Ça nous pose question. Mais regardez bien, Jésus insiste à la porte. C'est magnifique. C'est un message joyeux. Ne nous attristons pas sur les défections spirituelles qu'on voit à beaucoup de places. Réjouissons-nous de l'amour de Jésus pour nous, même quand nous sommes un petit peu rétrogrades, ou beaucoup. Ça peut arriver, chers amis, que dans notre vie, on a été pendant 15 ou 20 ans, ou 5 ans, ou 30 ans, complètement rétrograde et loin. Et que la porte était fermée, Jésus était derrière. Et puis tout d'un coup, on a entendu sa voix, on a ouvert la porte. Quel bonheur, n'est-ce pas? Quelle retrouvaille! C'est ça. Ça, c'est le bon maître fidèle et humble qui lave les pieds de ses disciples. Jean chapitre 13, versets 1 à 6. Alors, continuons dans Matthieu. Au chapitre 15, verset 37. Vous savez, je commence au verset 25, hein, 34. Jésus demanda à la foule, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Ouh là là, il n'y a pas de quoi être joyeux, hein, parce qu'il y avait combien de personnes, chers amis? 4000 hommes, plus les femmes et les gosses. 20 000 personnes, 15 000. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. 7 pains et quelques petits poissons. Oui, 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 oui. Et oh, Jésus est joyeux, il rend grâce. Ce petit enfant qui a apporté les poissons et les pains, c'est quelqu'un qui venait pour partager. Quand Jésus les a reçus de sa main, c'était un messager de grâce. Êtes-vous messager de grâce pour les autres? pour leur apporter l'abondance du cœur comme celui de Jésus. Et vous, êtes-vous un messager de grâce qui va faire en sorte que Dieu multiplie le peu que vous avez dans le cœur, dans l'âme, dans le corps des autres? Dieu ne vous demande pas d'être riche pour aimer le servir. Dieu vous demande d'utiliser le peu que vous avez et de rendre gloire. Je suis heureux quand je reçois dans une enveloppe tous les mois 30 euros de quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup plus. Et qui ne peut pas faire plus. Mais quelle joie de voir ce message d'amour. Quelle joie de voir cette relation d'amour avec le Seigneur. Je la vois entre cette personne et le Seigneur, et je la vois à notre égard. Donc, clairement, les 30 euros ici, ben oui, ils se multiplient. 30 euros Pakistan, croyez-vous? Vous voulez que je vous dise? Eh bien, un couple avec 4 enfants, 3-4 enfants ou 5, doit faire 2000 briques pour les seigneurs de la terre qui les commandent. Ils marchent dans la boue, ils font les briques à la main, comme les Hébreux en Égypte. 15 heures de travail pour une famille, combien gagne-t-il? 1,50 €. Donc les 30 euros de la personne qui m'écoute à l'instant, ça fait le salaire de 20 familles. Vous imaginez l'importance du petit peu que chacun de nous peut donner, du petit peu qui se multiplie. Que Dieu vous fasse comprendre que tout ce que vous avez vient de Dieu et qu'il faut faire cette multiplication des pains pour sa gloire, pour aimer les frères et les sœurs dans le monde. J'ai été fortement désireux de trouver des dons pour aller, en allant en France du 1 au 15 avec ma femme et Bénédicte. Oui, pour Bénédicte, pour son soutien, parce qu'elle est missionnaire, elle n'a pas de salaire dans son travail à l'école. Et pour moi, j'ai mon soutien. Un jour, il cessera quand j'arrêterai d'être missionnaire. Mais ce qu'il y a, je remercie Dieu parce qu'il est généreux. Il est fidèle, il est bon à travers beaucoup d'entre vous. Mais ce qu'il y a, je pensais trouver pas mal d'argent pour ses frères et ses sœurs au Pakistan. Et la conjoncture est la suivante. C'est que le prix de l'autoroute coûte cher actuellement en France. Le carburant coûte cher. Et donc, de tout ce que j'ai reçu, j'ai consommé, j'ai dépensé pas mal. Il m'est resté de l'argent que je leur ai envoyé. De cet argent que je leur ai envoyé, ils ont pu nourrir pour une semaine 135 enfants et les institutrices. 3 institutrices. Mais il y avait 21 jours qu'ils n'avaient plus eu à manger. Donc, les parents, péniblement, subvenaient à leurs besoins. Cette école n'avait plus depuis 21 jours à manger. Je viens de le voir aujourd'hui sur un message. Ça me fait penser à cette foule, lors de la visite de Jésus, dans les montagnes de Galilée, et que ce petit garçon a apporté du pain, quelques petits pains, 7 pains, quelques petits poissons. Et que se passe-t-il, chers amis? C'est que dans ce récit, au verset 17, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants, sans compter. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan, donc de l'autre côté, en Jordanie. Chers amis, c'est peut-être Magdala, excusez-moi, c'est tout près de Tibériade. C'est pas en Jordanie, Magadan, c'est probablement Magdala. D'où vient Marie de Magdala d'ailleurs. Mes chers amis, nous sommes dans une période difficile pour beaucoup de chrétiens dans le monde. Beaucoup souffrent. Et pensons bien que nos 7 pains et nos petits poissons peuvent faire beaucoup dans leur cœur et leur donner la joie. Nous avons reçu ici 10 Ukrainiennes, sauf une, elles seront toutes reparties pour le 30 juillet. Elles désirent revoir leur mari, leur famille, bien qu'il y ait des risques. Elles peuvent encore revenir. À partir de la date où elles ont été intégrées chez nous, il leur reste un an pour pouvoir, éventuellement, avant l'échéance d'un an, pour pouvoir revenir. Mes chers amis, elles souffrent. La seule qui ne part pas, c'est celle qui est venue au culte depuis le début. C'est celle dont on prend soin parce qu'elle a eu des ennuis de santé, la plus âgée, et qui, bien sûr, se tracasse. Si elle retournait, sa maison était complètement détruite. Son mari, 57 ans, travaille pour la Croix-Rouge, au risque d'y perdre la vie dans les régions hostiles, d'hostilité. Si elle retournait, elle devrait vivre dans une voiture avec son mari. Une voiture, je ne sais pas dans quel état, pensez bien, alors qu'elle a des problèmes de santé. Elle est donc restée et elle fera partie de notre famille. Ils auront bien 7 pains et quelques petits poissons pour elle. Et si ces personnes qui partent ont besoin, on le saura aussi. Elles nous le feront savoir. Car je pense que là-bas, elles seront peut-être un petit peu blessées de voir ce qui se passe. Il faudra toujours, chers amis, dans les temps qui viennent, partager les 7 pains et les petits poissons avec joie. Avec simplicité de cœur. Rappelez-vous dans les actes des apôtres, quand il y a eu les conversions, 4000, 5000, il y avait au total, après quelques jours, 20 000 convertis. Ils mangeaient avec simplicité de cœur et dans la joie. Il n'y avait point parmi eux d'indigents. Les diacres s'occupaient de pourvoir à tous pour qu'il n'y ait pas d'injustice. Les apôtres persévérait dans la prière et la parole de Dieu. Les deux jambes de l'Église, c'est qu'il y ait des responsables qui persévèrent dans la prière et la parole de Dieu. Et d'autres doivent persévérer dans le service et l'engagement des 7 pains et des petits poissons. C'est là que l'Église de Christ vit vraiment, sur ces deux jambes-là. Alors, les repas miracles au Pakistan, oui, existent. Je vous l'ai dit, 30 euros d'une personne, quand elle me l'envoie dans une enveloppe, c'est 20 familles qui ont mangé une journée. Alors, chapitre 16, verset 18 de Matthieu. Ah oui, je commence au verset 17. Jésus, reprenant la parole, dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, donc la nature humaine, et le sang, les parents, etc., qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui en a issu. » Qu'est-ce que Dieu a révélé par son Saint-Esprit à Pierre ? Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Avez-vous cette joie ? Avez-vous cette révélation ? Quand dans Galates, Paul dit, il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils Jésus-Christ. Chers amis, cherchez-vous ce cadeau? Si nous demandons peu, nous recevons peu. Si nous demandons beaucoup, nous recevrons beaucoup. Et le premier cadeau, bien sûr, ce n'est pas la multiplication des 7 pains et des poissons. C'est la révélation de Christ en nous, la connaissance intime et profonde, vivante de Jésus-Christ, et la vie avec lui. On n'est plus orphelin, on n'est plus seul dans les problèmes, on ne patauge plus dans la vie, dans les humeurs nauséabondes que parfois on a. Et c'est bien sûr l'intervention des bénédictions divines. Alors, continuons. Jésus est venu pour la victoire en nous. Jésus est venu pour la victoire contre le doute, contre l'inconnaissance de Dieu, contre nos yeux aveugles, contre nos oreilles bouchées. Il est venu pour se révéler. Si nous avons une âme de petit enfant, si nous voulons bien l'accueillir, le recevoir. Il faut lui dire. Il faut être comme un enfant, il faut lui dire. Alors, la victoire de Christ est en nous, si nous nous abaissons, pour mieux le connaître. Chapitre 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres, ou les 99 autres pour les Belges, sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Donc la personne qui pêche, la personne qui crie au secours à Dieu, Dieu l'entend et va la chercher, si elle a le cœur humble et vrai. Et il y a de la joie en Jésus-Christ pour cette personne, à son égard. Et de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. De même, donc le Père est dans la joie et les anges aussi. Il ne faut donc pas mépriser les petits, c'est-à-dire les pécheurs qui se repentent, les pécheurs. J'ai été consterné quand, avec un frère de l'église, nous avons annoncé l'évangile à une prostituée et elle a arrêté son métier très rapidement, en quelques minutes. Et elle a accepté Christ. J'ai demandé à plusieurs personnes d'aller la voir. Les personnes qui sont chrétiennes depuis des années, personne n'a bougé. Il m'a fallu attendre 2 ans pour découvrir 2 chrétiennes qui voulaient bien y aller. Des chrétiennes étrangères. Mais on dirait que chez nous, nous avons le cœur bétonné. Dès que nous voyons quelqu'un qui n'est pas comme nous, on l'évite. On ne veut pas. Il est pestiféré. C'est quand même bizarre. Alors que Jésus dit que les prostituées nous devanceront dans le royaume des cieux. Les pécheurs nous devanceront. Vous savez, quand au bout de 20 minutes, une demi-heure, une personne se convertit, c'est qu'elle attendait cela, qu'elle avait soif de rencontrer la bonne nouvelle de Dieu, de Jésus-Christ. Chapitre 20, verset 11 de Matthieu. Chapitre 20, verset 11. Il s'agit de la vigne du maître qui engage les gens à 6h du matin, à 9h du matin, à midi, à 3h l'après-midi. Et puis, c'est le pire, c'est qu'il en engage même à 5h du soir, alors que la journée se termine à 6h du soir. Et il leur donne à toutes ces personnes le même salaire. Alors, il y en a qui sont furieux, bien sûr, puisqu'ils ont le même salaire. Mais il s'agit d'un salaire, c'est la vie éternelle. Et le salaire, c'est la victoire, le pardon des péchés, c'est le don de la vie éternelle par Jésus-Christ à la croix. Qu'on se convertisse à la fin de sa vie, ou qu'on se convertisse après une vie horrible de péché, ou qu'on soit converti parce qu'on a entendu la parole de Dieu dans sa jeunesse. Quel rapport? Pouvons-nous nous comparer? Que méritons-nous? Le salut est toujours gratuit. C'est le maître qui donne le salaire. C'est pas nous. Nous ne méritons rien. Le salut est œuvre gratuite de Dieu. Et cette parabole dans chapitre 20, verset 1 à 16, est très importante. Alors, le maître dit ceci, au verset 15, « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ?» De son amour. De son amour. De sa puissance, de sa volonté, de sa joie d'aimer, de sauver une âme perdue. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Donc on voit ici que c'est une critique de la nature même de Dieu, une critique même de la miséricorde divine. une critique même du saint amour de Jésus pour les pécheurs, qu'elle a désigné. Nous ne pouvons pas offenser Dieu à ce point-là. Il ne faut pas oser faire ça. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Au chapitre 21 de Matthieu, versets 6 à 11, je vais devoir arrêter, je m'excuse, je reprendrai une autre fois. C'est l'entrée en triomphe de Jésus sur le petit Dunanès, dans Jérusalem. Donc, verset 6, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Donc, il y a califourchon sur l'ânesse et sur l'ânon. La plupart des gens de la foule étendurent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient, Jésus, qui suivait Jésus, criait, Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Puis il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, il en disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Chers amis, le vrai Jésus de Nazareth, pas celui des cathédrales et des basiliques, pas des armées chrétiennes, le vrai Jésus de l'Évangile donne toujours la joie au peuple, à tous les peuples. Et tous les peuples attendent. Je vous laisse avec cela aujourd'hui. Nous continuerons la fois prochaine sur la joie de notre Maître, de notre Seigneur Jésus, la joie de son amour pour nous. Bonne soirée, nous sommes mercredi à vendredi, si Dieu le permet.